VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, Jacques Aristide en votre compagnie en direct de Washington. Ravi de vous retrouver en ce mercredi 7 février 2018. Les titres que nous allons développer dans le monde aujourd'hui. En RD Congo, interrogation autour de la disparition d'un pasteur critique envers le président Kabila. Harcèlement sexuel, le directeur de Nucida critiqué pour sa gestion d'une plainte. Peste à Madagascar, l'OMS craint une épidémie régionale. Aux États-Unis, compromis budgétaire au Sénat pour éviter la paralysie. Et dans la partie magazine, un nouveau pas de franchi dans la conquête de la planète Mars.
On se dit qu'il n'est pas exclu que la vie soit également quelque part sur Mars s'il y a de l'eau dans les profondeurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas également de la vie dans les profondeurs ?
Ne manquez pas non plus vos rubriques habituelles, la Minute Éco et la page sportive. Le sort d'un pasteur protestant qui avait tenu un discours jugé critique devant des proches du président Joseph Kabila suscite des questions en République démocratique du Congo. Le pasteur David Ekofo a emprunté un vol de l'ONU pour quitter le pays. D'après les Nations Unies, son église s'inquiète d'être sans nouvelles de lui depuis dimanche. En RDC toujours, la MONUSCO veut la tenue d'un procès équitable pour un colonel déserteur de l'armée congolaise aux arrêts à Kinshasa après son extradition de la Tanzanie. John Chibangu a été extradé vers la RDC depuis la Tanzanie après avoir menacé de chasser dans les 45 jours le président Joseph Kabila au pouvoir. 10 partis d'opposition tchadiens qui avaient soutenu un appel à manifester des syndicats ont été suspendus pour 2 mois pour trouble à l'ordre public et incitation à la violence. C'est ce qu'affirme dans un communiqué le ministre de la Sécurité, Ahmad Mahmad Bachir. En Guinée, les autorités appellent au calme après la mort de 7 personnes dans des violences après les premières élections locales depuis 2005. Le point avec Morgane Guiriec.
La Commission électorale nationale indépendante invite les acteurs politiques et les candidats à faire preuve de retenue dans l'attente des résultats. La CENI appelle également les services de sécurité à travailler davantage pour l'instauration d'un climat de paix. De son côté, l'ONU regrette les récentes violences qui ont occasionné des pertes en vie humaine. Le calme était revenu ce matin à Conakry où des manifestants de l'opposition ont bloqué hier la circulation dans plusieurs quartiers de la banlieue pour exiger la publication des résultats, accusant le pouvoir de vouloir les modifier en sa faveur. La CENI, seule instance habilitée à proclamer les résultats, a promis de les publier d'ici la fin de la semaine. D'après les autorités, 5 nourrissons ont péri mardi dans un incendie volontaire à Kalenko. Les précédents scrutins en Guinée, les présidentielles et les législatives, ont été émaillés de violences et d'accusations de fraude.
Au Sénégal, le procès du maire de Dakar et de ses collaborateurs, jugés pour détournement de deniers publics, se poursuit à la barre aujourd'hui. Khalifa Sall a déclaré que l'État sénégalais avait, dès son origine, toléré et même souhaité l'existence de fonds politiques échappant aux règles comptables habituelles au sein de la mairie de Dakar. Cyril Ramaphosa, le président de l'ANC parti au pouvoir en Afrique du Sud, a déclaré aujourd'hui être en discussion directe avec le chef de l'État, Jacob Zuma, pour négocier les termes de sa démission et assurer la transition à la tête du pays. Dili Diko.
Hier soir, le président Jacob Zuma et moi-même avons entamé des discussions directes sur la transition et les questions liées au poste de président de la République, a déclaré Cyril Ramaphosa dans un communiqué. Il a ajouté que Jacob Zuma et lui seront en mesure de rendre compte au pays dans les prochains jours. Monsieur Ramaphosa a également estimé que les discussions ont été constructives et ont permis de poser les fondations d'une résolution rapide de la situation. Le numéro 1 de l'ANC s'est dit conscient que l'incertitude liée au poste de chef de l'État est une source d'inquiétude pour les Sud-Africains. Depuis l'élection de Cyril Ramaphosa à la tête du parti au pouvoir, la pression monte pour obtenir le départ du président Zuma, cité dans plusieurs affaires de corruption.
L'armée nigériane va envoyer des troupes dans les états du centre du pays pour mettre fin aux violences entre agriculteurs et éleveurs qui ont fait des centaines de morts ces dernières semaines. Au Kenya, le président de la Cour suprême dénonce le récent mépris des autorités vis-à-vis de plusieurs décisions de justice. Le point avec Chérubin Dorsil.
Le juge David Maraga est célèbre depuis sa décision historique d'annuler le résultat de la présidentielle du 8 août dernier et d'ordonner un nouveau scrutin. Il a rompu le silence suite au non-respect de plusieurs décisions de justice après l'investiture symbolique de l'opposant Raila Odinga comme président du peuple. La police kényane a refusé d'obéir à deux ordres séparés de libérer sous caution l'opposant Miguna Miguna. Il a finalement été expulsé hier vers le Canada. Par ailleurs, l'autorité des communications a traîné les pieds pour appliquer partiellement une autre décision. La justice avait ordonné la levée de la suspension d'antenne pour 4 chaînes de télévision. 2 chaînes ont repris leurs émissions lundi, pendant que 2 autres sont toujours interdites de diffusion. Pour le juge Maraga, désobéir à une décision de justice représente une violation de la Constitution et menace l'état de droit. La réélection du président Uhuru Kenyatta en 2017 a été accompagnée de plusieurs mois de troubles qui ont fait au moins 92 morts au Kenya.
Le président du principal parti d'opposition au Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, a chargé un de ses adjoints, Nelson Chamisa, d'assurer son intérim le temps de son traitement pour un cancer dans un hôpital d'Afrique du Sud. Le directeur exécutif d'ONU-SIDA, Michel Sidibé, a mal géré une plainte pour agression sexuelle visant son adjoint. D'après une enquête interne des Nations Unies, l'affaire est liée à des accusations contre Louis Loures, faites par une employée de l'organisation qui affirme que cet homme l'a harcelé à de multiples reprises depuis 2011 et l'a même agressé dans un ascenseur en 2015. D'après les enquêteurs, il n'existe pas de preuves suffisantes pour étayer ces affirmations. Ils se sont toutefois montrés critiques envers M. Sidibé pour avoir tenté de résoudre cette affaire discrètement en organisant une rencontre entre l'accusatrice et l'accusé. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, dit craindre que la prochaine épidémie de peste à Madagascar soit de plus en plus grande ampleur, soit de plus grande ampleur et aille même au-delà des frontières de l'île. La peste demeure endémique dans certains pays africains. À Madagascar, un des pays les plus pauvres de la planète, la bactérie Yersinia pestis, transportée par les rats et transmise à l'homme par leurs puces, réapparaît chaque hiver austral. En moyenne, 300-600 cas sont recensés. Le directeur général s'est rendu sur place après l'annonce de la sortie de la phase aiguë de l'épidémie pour rencontrer les autorités malgaches. Au Maroc, des villages isolés à cause, tenez-vous bien, de la neige. Une nouvelle vague de froid accompagnée de neige fait grelotter le pays depuis quelques jours. Quelques 900 établissements scolaires, situés pour la plupart en milieu rural, ont été fermés en raison des mauvaises conditions météorologiques. L'intérieur du pays, avec ses massifs montagneux, est le plus rudement affecté par cette nouvelle vague de froid. Même le désert marocain, au climat habituellement aride, a été en partie recouvert d'un épais manteau blanc, phénomène météorologique rare dû à cette vague de froid venue du nord de l'Europe.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Israël se prépare à expulser des milliers d'Érythréens et de Soudanais entrés illégalement dans le pays et qui n'ont pas de demande d'asile. Ils doivent partir d'ici au 1er avril ou aller en prison. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Israël n'a pas dévoilé les pays qui vont accueillir ces migrants qui doivent être expulsés, dont la plupart sont originaires de l'Érythrée et du Soudan. Les organisations d'aide aux migrants parlent de l'Ouganda et du Rwanda comme leur future terre d'accueil, mais Kigali et Kampala ont démenti tout accord avec Israël. Les autorités israéliennes distribuent des lettres aux migrants pour renouveler leur permis de séjour de 2 mois. Pour le moment, le document est adressé uniquement aux hommes. Ils ont 60 jours pour quitter le pays avec un pécule de 3 500 $. Ce plan d'expulsion est désapprouvé par le HCR et des survivants de l'Holocauste qui estiment que leur pays a le devoir de protéger les migrants. D'après le ministère de l'Intérieur, 42 000 migrants africains vivent en Israël. Plus de 15 000 ont demandé l'asile. 6 600 dossiers ont été traités et seulement 11 ont reçu une réponse favorable.
Je vous le disais en titre, aux États-Unis, les chefs de la majorité républicaine et de l'opposition démocrate du Sénat américain ont annoncé cet après-midi avoir scellé un accord budgétaire portant sur 2 ans un rare compromis qui devrait réduire le risque de crise en 2018 et en 2019, et ce dès cette semaine. Mais les parlementaires ont remis à plus tard la question épineuse de la régularisation des migrants clandestins. Toujours aux États-Unis, la Maison-Blanche annonce que le président Trump souhaite la mise en place d'un défilé militaire pour mettre en avant la puissance militaire américaine, une démonstration de force qui n'est pas dans la tradition des États-Unis. Le souhait de Donald Trump suscite d'ores et déjà un barrage de critiques, même si le Pentagone s'était déclaré particulièrement impressionné par le défilé militaire français du 14 juillet lorsqu'il avait été reçu. On parle évidemment du président Trump en grande pompe par le président Emmanuel Macron à Paris. Et pour terminer, une Mona Lisa africaine, véritable icône nationale au Nigeria, considérée disparue, sera mise en vente aux enchères, évidemment, après avoir été retrouvée dans un appartement de Londres. Ce portrait de la princesse Ife Adetutu Ademiloui, surnommée Tutu, peint en 1974 par l'artiste nigérian Ben Enmunvu, sera mise en vente le 28 février par la maison d'enchères Bonhams, une vente retransmise en direct à Lagos pour permettre aux acheteurs potentiel de se manifester. Et voilà donc pour l'actualité africaine et mondiale sur VOA Afrique. Sans plus tarder, un tour d'horizon de l'actualité économique en Afrique. Il est l'heure de la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Le Cameroun compte lever 96 milliards de francs CFA auprès des banques locales pour l'exécution du budget 2018. D'habitude, ce genre de fonds sert au financement de certains projets et à oxygéner la trésorerie de certaines entreprises publiques. L'Ouganda a besoin de 388 millions de dollars pour relancer sa compagnie aérienne National Uganda Airlines avant octobre 2018. Des patrons français et algériens ont créé un conseil d'affaires algéro-français. Il servira de cadre de travail pour favoriser un échange régulier entre les deux centrales patronales. Une soixantaine de chefs d'entreprise français est à Alger. Ces patrons réclament une plus grande clarté dans la simplification des procédures douanières et de clarification sur les exigences à l'importation. Le Parlement éthiopien a adopté une hausse du budget fédéral de 511 millions de dollars pour l'exercice 2017-2018. Ce budget additionnel sera affecté au fonds consacré à la jeunesse, à l'amélioration des capacités d'accueil de l'université d'Addis Abeba, à l'acquisition d'équipements pour le programme de numérisation du système de télé et radiodiffusion dans le pays, au soutien des personnes touchées par les catastrophes naturelles et aux institutions gouvernementales qui sont confrontées à des difficultés budgétaires.
Il est l'heure maintenant de condenser de l'actualité sportive. Nous retrouvons Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Les joueurs africains les mieux payés de la Ligue 1.
Oui, le journal L'Équipe qui publie une enquête annuelle sur les salaires des joueurs de la Ligue 1. Si le Paris Saint-Germain domine largement le classement global établi par le quotidien sportif, avec 9 joueurs dans les 10 premières places, deux internationaux africains se glissent dans le top 30. Le Sénégalais de l'AS Monaco, Keita Baldé, 22e, salaire brut mensuel 340 000 euros. Et le Burkinabé de l'Olympique Lyonnais, Bertrand Traoré, 24e, salaire mensuel 300 000 euros. Ça fait rêver.
Le Bayern en demi-finale de la Coupe d'Allemagne.
Le Bayern Munich qui s'est qualifié hier soir en atomisant Paderborn, 6 buts à 0. Ce club est pensionnaire de la 3e division allemande. Finaliste malheureux la saison dernière en Coupe d'Allemagne, le club allemand est le plus titré dans cette compétition avec 18 victoires. Le Bayern Munich n'a pas fait de sentiment face aux petits poussés de la compétition. Les Français ont marqué Coman, Tolisso ou encore Franck Ribéry qui est rentré à 10 minutes de la fin pour inscrire son but grâce à une passe décisive de Robben.
Un nouveau sélectionneur pour l'équipe de rugby du Zimbabwe.
L'ancien sélectionneur de l'Afrique du Sud, Peter de Villiers, a été nommé à la tête de l'équipe du Zimbabwe, où il succède à Cyprian Madenge. C'est ce qu'annonce la Fédération zimbabwéenne de rugby. De Villiers, c'est le premier sélectionneur noir de l'histoire des Springboks entre 2007 et 2011. Il a signé un contrat de 2 ans. On rappelle que le Zimbabwe a déjà participé à 2 Coupes du Monde de rugby en 1987 et en 1991, sans y remporter la moindre victoire.
NBA, championnat de basket nord-américain.
Dans un match au sommet de la conférence Est, Toronto a dominé Boston sans 11 à 91, tandis que Cleveland tombe pour la 22e fois de la saison, 116-98 contre Orlando. James Harden a franchi le seuil des 15 000 points marqués en NBA grâce à ses 36 points marqués lors de la victoire de Houston face à Brooklyn, 123-113. Et puis les Golden State Warriors se sont inclinés face à Oklahoma City, 125-105.
Merci bien Nicolas.
Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama, 19h TU. Pour participer, c'est très simple. Laissez vos commentaires ou numéro de téléphone sur notre page Facebook. Alors, à très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'aborder notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide de retour avec vous sur VOA Afrique, émettant de la capitale américaine à Washington DC. Au Cameroun, inquiétude dans les rangs des avocats des 47 personnes extradées récemment du Nigeria, parmi lesquelles Ayuk Tabe, leader des séparatistes anglophones. Ses avocats affirment n'avoir aucune nouvelle de leurs clients. Cette situation provoque également de vives critiques de la part des défenseurs des droits de l'homme au Cameroun. Pendant ce temps, la tension ne cesse de monter en zone anglophone depuis l'annonce de ces extraditions. Correspondance à Yaoundé d'Emmanuel Julenta.
À Yaoundé, c'est l'inquiétude qui a gagné le camp du collège d'avocats devant assurer la défense des 47 personnes extradées du Nigeria. À 4 reprises, ceux-ci ont tenté en vain de rencontrer les 47 sécessionnistes. Maître Claude Assira, l'un des 4 avocats du dit collège.
Je doute fort que l'identification de ces personnes ait été faite et qu'ils puissent être aujourd'hui indiquer avec précision ce qui peut être reproché à l'une ou l'autre de ces 47 personnes, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien, ni a fortiori qu'il puisse y avoir une documentation de ces reproches et griefs éventuels. Voilà, par conséquent, on est tous dans le flou total. Je doute fort que les autorités de poursuite soient elles-mêmes plus renseignées que nous. Et c'est regrettable que nous n'ayons pas la possibilité d'accéder à ces personnes. Il est dommage pour la vérité qu'elles prennent des chemins aussi tortueux.
Le lieu de détention des 47 est toujours tenu secret. Le gouvernement camerounais a démenti cependant le 2 février dernier les rumeurs d'exécution extrajudiciaire des concernés. Il a en outre affirmé que ceci était en exploitation par la police judiciaire. Une démarche que critique Maximilienne Gombe, directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, basée à Douala, au Cameroun.
Vous dites qu'ils sont en exploitation. On ne sait pas si c'est le procureur de la République, on ne sait pas si c'est le commissaire du gouvernement. On est dans un pays de droit.
En zone anglophone, la peur et la colère dominent désormais les esprits des populations depuis l'extradition des sécessionnistes arrêtés au Nigeria. C'est du moins un avis que partage Dr Hilaire Kamga, porte-parole de la plateforme pour la société civile, un militant des droits humains qui a séjourné en zone anglophone pendant ces 10 derniers jours.
Les populations sont en colère. Colère contre la République du Cameroun, colère contre les extrémistes séparatistes aussi. En colère aussi contre la gendarmerie et les forces spéciales, parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi tout le monde peut être d'office considéré comme potentiel terroriste. Chaque jour qui passe, il y a des gens qui sont tués.
C'est devant le tribunal militaire de Yaoundé que Ayuk Tabe Sissoukou et 46 autres sécessionnistes devraient passer à la barre et encourent la peine de mort. Une option des pouvoirs publics, globalement soutenue à Yaoundé par la population.
Ils doivent vraiment subir une justice très ferme.
On ne négocie pas avec les terroristes. Regardez combien de familles ont perdu, les gens sont en deuil au jour d'aujourd'hui par leurs propres frères.
Lundi dernier, le département d'État américain a demandé aux autorités camerounaises de respecter le droit à une procédure judiciaire en bonne et due forme pour les 47 personnes extradées du Nigeria vers le Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Julenta, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a annoncé des sanctions contre 19 personnalités bissau-guinéennes, dont des proches du président José Mario Vaz. La CEDEAO les accuse de non-respect d'un accord de sortie de la crise politique. La Guinée-Bissau, vous le savez, traverse des turbulences politiques depuis la destitution en août 2015 par le président Vaz de son premier ministre Domingos Simoes Pereira. Pour analyse, Abdourahman Dia a joint à Paris le spécialiste de la Guinée-Bissau à l'International Crisis Group, Vincent Fouché. Vincent Fouché, pardon.
On a déjà l'expérience de sanctions en Guinée-Bissau. Après le coup d'État de 2012, il y avait eu des sanctions qui avaient été prises. Elles n'avaient pas forcément marché dans l'immédiat, mais c'est vrai qu'elles avaient quand même eu un impact, disons, de moyen terme, en assouplissant un peu la position des militaires. Est-ce que ce sera la même chose ? Les hommes politiques concernés sont des gens qui sont quand même beaucoup plus internationalisés que les militaires de 2012. Des gens qui voyagent, des gens qui ont des maisons, des comptes en banque, en dehors du pays aussi. Donc peut-être que ça va les toucher. Ceci étant dit, on est quand même dans quelque chose qui est une lutte vraiment très très tendue pour le contrôle du PIGC, pour le contrôle de l'État.
Est-ce qu'on peut dire que la CEDEAO a été irritée après tant d'années de patience avec les multiples médiations de l'ancien président nigérian Obasanjo?
Oui, alors c'est vrai que la CEDEAO est un peu en charge du dossier depuis 2012. Elle y a perdu quelques plumes d'ailleurs à un moment. Et puis maintenant, elle commence à être un peu lassée. Elle a porté donc les accords de Conakry de 2016 là, qui étaient censés offrir une piste de résolution à la crise politique. Mais ces accords ne sont pas appliqués et la CEDEAO s'agace. Et la CEDEAO cible assez précisément un camp, le camp du président de la République, José Mario Vache.
Et justement, quel est le rôle de l'armée dans tout cela? C'est vrai que depuis 2012, on n'a pas connu de coup d'État, mais c'est un pays quand même qui a vécu plusieurs coups d'État, donc l'armée n'est jamais très loin.
Oui, alors l'armée a été échaudée par la suite de 2012, par les conséquences du coup d'État et la pression internationale. Par ailleurs, il y a une petite force de la CEDEAO qui compte environ 500 hommes. Et puis on a vu avec l'affaire Gambienne que la CEDEAO quand même pouvait représenter éventuellement une force militaire le cas échéant. Donc du côté de l'armée, on a une volonté d'essayer de jouer le jeu, de ne pas perturber le jeu démocratique, en tout cas pour le moment. Ceci étant dit, il y a eu en décembre l'annonce de l'arrestation de plusieurs militaires de rang intermédiaire pour un projet d'assassinat contre le chef d'état-major. Donc on peut encore imaginer, c'est une armée très factionnalisée dans laquelle un certain nombre d'hommes politiques ont des connexions, on peut imaginer à un moment ou à un autre que des morceaux de l'armée, c'est toujours évidemment une possibilité à Bissau.
Pourquoi le président Vaz n'arrive pas à contrôler l'État et le parti PAIGC en Guinée-Bissau? On a vu plusieurs premiers ministres défiler depuis 2012.
En fait, on a un système qui est un petit peu bicéphale, avec un premier ministre qui est quand même très fort et qui contrôle la gestion de l'État au quotidien, et puis un président qui a quand même des pouvoirs assez significatifs, notamment la nomination du procureur général, enfin toute une série de pouvoirs.
On écoutait Vincent Fouché de l'International Crisis Group. Il était en ligne de Paris.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Eh bien, pari réussi pour Elon Musk, le fondateur milliardaire du SpaceX, qui rêve de coloniser la planète Mars. Sa compagnie a lancé hier la fusée la plus puissante du monde, la Falcon Heavy, entamant ainsi sa première mission historique en direction de Mars. Pour une analyse sur la conquête de l'espace, Nathalie Barge a joint à Cambridge l'astrophysicien Didier Queloz.
Ce qui est assez spécial dans cette fusée, c'est qu'on retrouve une fusée aussi puissante que les fusées qui avaient été développées pour le programme Apollo. C'est-à-dire que c'est des fusées qui peuvent emmener des grandes quantités de matériel relativement loin dans le système solaire. Alors l'ambition affichée du programme, c'est d'amener des gens, et pas uniquement une ou deux personnes, vraiment de coloniser la planète Mars. Et c'est cette partie qui est absolument fascinante dans ce programme, parce que jusqu'à présent, tout ce qu'il dit, il le fait, Monsieur Musk. Donc on peut bien imaginer qu'effectivement, il va aller sur Mars avec cette fusée. Donc on est vraiment à l'aube d'une conquête spatiale du système solaire actuellement.
Et la planète Mars, est-ce que cette planète pourrait être habitable ?
Alors, lors de la formation du système solaire, Mars devait ressembler énormément à la Terre. Donc on sait que la vie sur Terre, on a des traces de vie sur Terre à peu près environ 1,5 milliard d'années après la formation de la Terre. Donc on se dit qu'il n'est pas exclu que la vie soit également quelque part sur Mars à ce moment-là. Maintenant, ce qui s'est passé après, Mars a perdu son atmosphère parce qu'elle est plus légère, et puis on sait qu'il n'y a pas de vie à la surface. Mais il y a beaucoup d'espoir qu'il y ait des traces de cette vie. Et surtout récemment, on a mesuré des remontées liquides qui venaient des profondeurs de Mars. On pense que c'est de l'eau. On a vu en fait des coulées de boue. Tout en coup, ça réactive l'intérêt de se dire, mais en fait, s'il y a de l'eau dans les profondeurs, est-ce qu'il n'y aurait pas également de la vie dans les profondeurs? Pour moi, c'est l'intérêt énorme et d'envoyer des gens, se donner les moyens d'aller chercher la présence de vie sur Mars.
Mais est-ce qu'on peut envisager, un petit peu comme on voit dans les films de science-fiction, une colonie, par exemple, habitée dans une sorte de bulle sur ce genre de planète?
Du point de vue technique, je pense qu'on peut l'imaginer. Maintenant, du point de vue psychologique, ça reviendrait à une séparation de la Terre. Donc, je ne sais pas comment nous, les humains, on pourrait vivre ça. Ça restera à des conditions extrêmement difficiles. C'est beaucoup plus difficile de rester sur Mars que d'aller au pôle Sud. Vous êtes dans un environnement qui est extrêmement hostile, extrêmement dangereux, en plus, que vous n'êtes pas protégé des rayonnements solaires. Mais on peut imaginer que vous recréez quelque part une sorte de zone protégée.
Est-ce que l'on pourrait imaginer aussi l'homme capable de recréer une atmosphère similaire à celle de la Terre?
Oui, absolument. On peut tout à fait modifier l'atmosphère d'une planète. On le fait maintenant sur Terre de manière assez efficace. Et si on continue comme ça, eh ben, la Terre va devenir inhabitable. Donc oui, on peut le faire. Maintenant, est-ce qu'on va arriver à le faire dans le bon sens du terme? Je réponds toujours en disant, ben, avant de vouloir modifier l'atmosphère de Mars, pourquoi on n'essaierait pas de régler le problème du global warming sur Terre d'abord, et puis on se préoccupe de rendre la Terre parfaitement habitable? Mais oui, on peut, si on a du temps, on peut le faire.
Bon, attendons voir. Et voilà, on écoutait l'astrophysicien Didier Queloz de l'Université de Cambridge en Angleterre.
Salut les amis, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Me dit de fermer la boutique. Ben oui, point final à ce numéro du Monde aujourd'hui. Sims Lumami a dirigé la mise en onde. C'était notre ami Alfredo à la technique. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le secrétaire d'État a récemment désigné de nouveau l'Iran comme l'un des 10 pays particulièrement préoccupants pour s'être livré à des violations systématiques, continues et flagrantes de la liberté religieuse ou avoir toléré de telles pratiques. L'état de la liberté religieuse en Iran demeure extrêmement pauvre. Des observateurs de droits de l'homme signalent que Shamira Misavi, l'épouse de Victor Bet Tamraz, qui dirigeait autrefois l'église pentecôtiste assyrien d'Iran, a été visée sur base de sa foi et condamnée à 5 ans de prison pour crime contre la sécurité nationale. En juillet, son mari a été condamné à 10 ans de prison pour des charges similaires. Le fils du couple, Ramil, a également été accusé de soi-disant crimes contre la sécurité nationale en raison de sa foi et des activités religieuses de son père. Les observateurs de droits de l'homme notent que les convertis chrétiens sont de plus en plus visés en Iran, avec au moins 10 personnes condamnées à de longues peines d'emprisonnement au cours de l'année écoulée. La répression persistante de Baha'i se poursuit également en Iran. Le Centre pour les droits de l'homme en Iran rapporte qu'Azita Rafizadeh, une enseignante bahaï emprisonnée, a récemment été informée qu'elle ne serait libérée de prison que si elle se repentait et s'excusait d'avoir instruit de bahaï en ligne. Elle et son mari, Peyman Kushkubagi, également enseignant et membre de la communauté bahaï, ont été arrêtés en 2015 et reconnus coupables de crimes de sécurité nationale et d'appartenance à un groupe illégal. Les Bahaïs ont longtemps été l'une des minorités les plus persécutées en Iran, comme en témoignent des nouvelles archives en ligne, des documents officiels, d'articles de presse, d'enregistrements audio et d'autres sources primaires établies par la communauté internationale Bahaï. Désigner l'Iran comme un pays particulièrement préoccupant en raison des violations continues de la liberté religieuse par le gouvernement démontre l'importance que les États-Unis attachent au respect de ce droit fondamental. comme l'a déclaré le président Donald Trump lors de la proclamation de la journée de la liberté religieuse le 16 janvier. Les États-Unis sont le champion suprême de la liberté religieuse parce que nous ne croyons pas que le droit de conscience soit uniquement réservé aux Américains. Nous ne baisserons pas les bras dans nos efforts en vue de surveiller les persécutions religieuses et mettre en œuvre des politiques favorisant la liberté religieuse. Grâce à ces efforts, nous luttons pour qu'un jour, les gens de toute confession puissent suivre leur cœur et prier selon leur conscience.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.